Ministère de la Santé et de l'INPES.
Les questions du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde avec Dailymotion, ce soir à 19h20. Jean-François Aquin.
Notre invité ce mercredi est Jean-Marie Le Pen, le président du Front National. Le FN est-il de retour? Peut-il empêcher la majorité de l'emporter dans certaines régions en mars prochain? Peut-il tirer profit du débat sur l'identité nationale? Rendez-vous avec Jean-Marie Le Pen dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, ce soir à 19h20. France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Oui, ben ça y est, c'est reparti, j'écoute les nouvelles régulièrement et on meurt de froid en France, on meurt de froid. Alors ça m'énerve, quoi, ça m'énerve parce que le froid n'a jamais tué personne, ce qui tue c'est la misère. Quand Bernard Arnault va dans son hôtel 5 étoiles à Courchevel, et il fait froid l'hiver à Courchevel, il meurt pas lui. Alors, mais il faut pas le dire en France, il n'y a pas de misère en France, il n'y a pas de misère. Il fait froid, effectivement, il fait froid. Et comme le dit Balkany, ceux qui vivent dehors, c'est parce qu'ils le veulent bien. En France, il y a toutes les structures pour les héberger. Donc ceux des marginaux qui ont décidé de vivre comme ça, dans le froid. Allez, bon courage à tous.
Salut Daniel, salut à tous, c'est Gérard le routier. Eh bien, donc, il n'y aura pas la grève des routiers. On a eu 40 centimes d'augmentation, même pas, je crois, je sais pas. Finalement, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Et puis, les syndicats, eh ben, ils vont pas gueuler, puisqu'ils ont eu 4 centimes d'augmentation. Et puis, les retraités, ben, ils gueuleront pas, on va leur donner 8 centimes. Allez, et les fonctionnaires, combien on pourrait leur donner d'augmentation? Allez, on va aller jusqu'à 10, et la RATP, et si, et ça. Arrêtez de faire la grève, on vous augmente quand même. Allez, bon courage, je vais te dire quand même. Allez, ciao.
Oui, bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Et ouais, tout ça pour vous dire que le repère de Cahors fêtera cette première année d'existence le jeudi 17 à 19h. On va manger, on va arroser ça. On va parler de tout et de rien. Donc je rappelle que le repère de Cahors au Mont-Saint-Cyr à partir de 19h réservé pour venir manger. C'est tout, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et puis tenez bon, il faut continuer le combat. C'était Loulou de Cahors, à bientôt tous.
Et Daniel, Anthony de Cannes, tu as vu, je ne sais pas si vous en avez parlé, je crois pas, Hortefeux qui a reçu le prix du la médaille de la lutte contre le racisme. Et l'antisémitisme. C'est l'Union des patrons juifs de France. Je ne savais pas que ça existait, ça, les patrons juifs de France. Qui lui a décidé un achat dimanche, pareil. Hein? C'est pour sa lutte contre le racisme envers les Auvergnats, sans doute. C'est assez amusant. Bon, salut Daniel.
Oui, bonjour. Un petit message de Baptiste, paysan bio en puisée. Je vous écoutais dans ma cave en triant mes pommes de terre et je me disais que finalement, je m'aurais bien balancé quelques-unes dans la tête de tous nos politiques un petit peu mouillés, dont notre cher président. Voilà.
Oui, bravo, monsieur Ruffin. C'est un magnifique travail de journaliste que vous avez fait sur le sujet de la scientologie. Je souhaite de tout mon cœur que cet article... que cette enquête fasse l'objet de passages sur la télévision, d'autres radios et de journaux. J'ai peut-être encore le droit de rêver, mais encore merci, bravo.
Bonjour Daniel, je m'appelle Igor et j'ai 21 ans, j'habite à Paris. Écoute, je t'appelle parce que je viens d'écouter ton émission et j'aimerais réagir à 2-3 petits éléments sur cette superbe heure d'émission. Tout d'abord, admettons que ce changement de loi, une semaine avant le procès, est bel et bien une erreur. Qu'attend-il pour la corriger ? Eh bien, comme d'habitude, à droite, ils ne font rien et implicitement prouvent que c'était volontaire. Et à gauche, pour changer, ils préfèrent se tirer la nouille entre eux. Le deuxième élément concerne le message laissé par un auditeur que je n'oserais malheureusement pas qualifier d'AMG, qui se dit choqué par le parallèle entre secte et religion. C'est vrai que la scientologie raconte des choses dénudées de sens. Une bouillabaisse géante d'âme dans des volcans, c'est vraiment n'importe quoi. En revanche, le christianisme armé de créationnisme, d'un serpent qui parle et autres fruits empoisonnés alors qu'à l'époque, Total n'existait pas, ça, c'est la vérité absolue. Mon ami, une religion n'est rien d'autre qu'une secte reconnue qui généralement comprend plus de fidèles. Ainsi, l'erreur n'est pas dans le discours des croyants, mais dans les croyances elles-mêmes.
Salut Daniel, c'est Frédéric. Je t'appelle de Paris pour répondre à l'auditeur qui t'accusait hier de malhonnêteté intellectuelle pour le parallèle que tu établissais entre les scientos et les cathos. En fait, je voulais juste rappeler à ce monsieur que de la création à l'existence de l'enfer, que de l'immaculée conception à la place de la Terre dans l'univers, toute la religion catholique était basée sur la malhonnêteté et l'imposture intellectuelle. D'autre part, je sais pas qu'on ne nous parle pas de métaphores ou autre, parce que, par exemple, les traitements infligés par l'Inquisition à ceux qui osaient contredire ces sornettes n'avaient, eux, rien de métaphorique. Je sais pas, je trouve assez marrant de constater qu'avec les cathos, comme avec toutes les religions, il n'y a jamais très loin de la foi à la mauvaise foi. Salut et encore merci pour tes émissions.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, l'Afghanistan est le sujet de France Inter. Il me semble bien que nous sommes concernés, nous, Français. Allons-nous laisser notre gouvernement continuer à renvoyer tranquillement des Afghans vers leur pays en guerre? Chacun peut se procurer l'appel du mois de décembre de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui réclame au ministre Besson l'arrêt des renvois. www.acatfrance.fr.
Ah, ils sont bien ces deux messages qui succèdent avec cette critique radicale et nécessaire, bien sûr, de la grande religion catholique comparée aux sectes. Bienvenue cette critique, mais ensuite on a la CAT, l'action des chrétiens contre la torture. Et oui, rien n'est simple, on n'oublie pas tous ces chrétiens formidables qui, de témoignages chrétiens jusqu'au père Giraldo, perdu au milieu de sa Colombie, de la jungle bolivienne, sont des gens tout à fait remarquables, exemplaires, ont été et sont des gens tout à fait formidables. Voilà, ça, c'est une des contradictions courantes qu'il ne faut pas oublier, mais qu'il faut regarder en face. Tout ce que je dis là n'a rien à voir avec notre sujet du jour. Notre sujet du jour, c'est un reportage de Charlotte Perry. C'est l'histoire de Jean-Claude, l'entrepreneur entreprenant. Jean-Claude, un condamné d'avance, un coupable idéal. Mais l'histoire s'est retournée et vous allez voir dans quel sens. J'ai été, il y a quelque temps, j'ai vécu une expérience que je vous souhaite de vivre. J'ai été juré d'assises. Ouais, juré d'assises. Quand vous êtes juré d'assises, vous êtes convoqué le matin au tribunal et l'affaire du jour est exposée. Et ensuite, on choisit. Il y a un tirage au sort des jurés qui participeront donc au jury. Le tribunal pouvant vous renvoyer s'il le souhaite. Et donc tous les matins, les affaires, c'est des affaires graves, criminelles, qui sont exposées. Et donc j'ai été choisi, si on peut dire, pour l'une de ces affaires, mais il faut venir tous les matins. Et un autre matin, j'étais là, et il y avait une affaire qui me semblait absolument énorme. Il y avait un patron et qui était poursuivi par ses salariés, des femmes, dont il avait abusé. Mon jugement était immédiatement établi, rien qu'en voyant la tête de ce patron. Je l'aurais bien vu comme dans l'assiette au beurre, tranchée dans une assiette, cette tête. Eh bien, je suis resté, j'ai assisté au débat, aux éléments qui ont été apportés par les uns et par les autres, et peu à peu, mon jugement s'est totalement retourné et effectivement, la fin, je ne peux pas vous la donner là, mais a montré que je m'étais complètement laissé gagner par l'émotion et la première impression. C'est des choses très simples, mais qui ne sont pas si simples que ça lorsqu'on songe à ce qu'est l'opinion qui très souvent, trop souvent repose sur l'émotion, ce que bien sûr les démagogues savent parfaitement utiliser, et le rôle bien sûr de la justice, c'est de prendre toute la distance, toutes les informations, avec tout le calme nécessaire pour donner son jugement. Mais ce n'est pas toujours le cas, et cette heure que nous allons passer ensemble va le prouver. Encore quelques messages auparavant, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour les AMG, bonjour Daniel, bonjour l'équipe. Je voudrais évoquer avec une certaine gravité une info que j'ai entendue sur France Inter, qui est l'immense espoir que peut susciter la renaissance de l'UDF. L'UDF, vous vous souvenez, c'est un formidable mouvement giscardo-libéral, bon, qui représente évidemment la solution de tous nos problèmes. Je m'excuse d'être un peu solennel, mais c'est l'émotion, je contrôle assez mal. Alors c'est vrai que tous nos petits problèmes quotidiens sur le réchauffement climatique, les banlieues qui crèvent de faim, les agriculteurs qui n'ont plus un sou, les files d'attente à Pôle emploi, ouah, tout ça, qu'est-ce que ça pèse par rapport à la renaissance de l'UDF, Daniel? L'UDF va renaître. Alors, je pense que tu mesures l'importance de cette info et bah, je ne doute pas que tu consacres toute l'année 2010 au traitement de cette information, la renaissance de l'UDF. Moi, je suis bouleversé, hein. je l'avoue, je suis totalement bouleversé.
La pandémie de grippa aura-t-elle lieu? La grippa est moins virulente que prévu, c'est dans la presse de la semaine dernière. Également dans au moins un journal sur France Inter. Alors Daniel, s'il te plaît, pourrais-tu demander à tes collègues des rédactions qu'on n'abandonne pas pour autant le traitement de ce sujet brûlant de fièvre, mais qu'on aille au bout de sa couverture médiatique? On pourrait peut-être s'apercevoir alors qu'on a été manipulé et être mieux renseigné sur la genèse des manipulations. À moins que tout le dossier soit déjà en train de passer à la trappe. C'était Sylvain. Bye.
Le Café Repère se tiendra le 17 à 19h au Vigan, dans le Gard, au Petit Comptoir. Alors, exceptionnellement, on fait notre Café Repère le 17 et non pas le dernier jeudi du mois. Évidemment, c'est les fêtes, donc on a avancé la date. Le thème du jour, c'est le réchauffement climatique, info ou intox. Voilà, bienvenue à tous les ANG et grosse bise à tous.
C'était grotesque, quoi. On n'est plus des êtres humains, quoi. On est l'allié de l'humanité, quoi. Vous êtes soupçonné de quelque chose. Et à partir de ce moment-là, pour moi, les portes de l'enfer se sont ouvertes, quoi.
Alors, mon mari a été accusé de 4 agressions sexuelles et de 1 harcèlement sexuel.
Monsieur Diard, pour avoir une augmentation, il fallait faire des fellations.
Comment est-ce possible de croire qu'un patron déambule dans son entreprise avec le pantalon sur les chevilles, quand même? C'est aberrant.
Jean-Claude, je l'ai vu, il a soulevé les jupes d'Armel, la main dans la culotte et la main sur le sexe. L'autre, ah oui, vous avez vu ça aussi, oui. Quotidiennement, tous les jours, la main dans les nichons, la main sous la jupe, la main au cul. Alors évidemment, j'étais le grand méchant loup, quoi. Parce que quand on lit mon dossier, évidemment, au début, bon, je suis 100 fois coupable, ça je peux comprendre. Seulement voilà.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis, avec Charlotte Perry, histoire de Jean-Claude, l'entrepreneur entreprenant. Seulement voilà.
Flight number 2, arriving from New York.
Vous savez, ce type de plainte-là, c'est assez rigolo parce qu'il n'y a pas besoin de preuves. C'est ce que vous dites contre ce que je dis. Alors, imaginez, une personne contre une personne, c'est bien. Moi, j'en avais quelques-unes en face de moi. D'ailleurs, il y a un journal très intéressant qui s'appelle Le Parisien qui a écrit ça le 10 novembre, 3 jours après ma mise en examen. Je sais pas où il a eu les renseignements, mais pour lui, la présomption d'innocence, ça n'existe pas. Hein. Je peux vous montrer l'article, c'est assez calomnieux même. Tous mes clients l'ont eu par fax, par les gens du complot. Et j'ai perdu donc une bonne partie de ma clientèle, ce qui a amené au dépôt de bilan.
Alors aujourd'hui, je vous propose, pour commencer, 2 lynchages possibles. Hein ? Lynchage ou lâchage, si vous voulez. On se lâche et on se lynche. On les lynche. Ils sont 2. Il y a Maurice ou Thérèse. Alors essayez de réfléchir à celui ou celle, puisqu'il y a Thérèse, que vous auriez le plus envie de lyncher aujourd'hui, pour commencer. Alors, Maurice, c'est un patron. Bon, déjà. C'est un gros beauf, pervers, lipu, qui tripote ses honnêtes ouvrières, qui leur tient des propos salaces, qui les attouche et les oblige à faire des choses épouvantables à genoux alors qu'il porte son pantalon sur les chevilles. Bon, aucun doute, on le lynche au pilori, au poteau. Maurice, ton sort est scellé. Très bien. Maintenant, l'histoire de Thérèse. Alors, Thérèse travaille pour un brave patron. Un type comme il y en a peu qui se décarcasse pour maintenir les emplois dans sa petite entreprise. Un honnête père de famille qui bosse. Mais voilà, il y a Thérèse dans l'entreprise. Thérèse, elle est comptable et Thérèse, c'est une allumeuse. Il ne faut pas lui en promettre à Thérèse. Et à la suite d'un léger différend avec son patron, elle lui monte un coup tordu. Elle décide, pour se venger, de le faire passer pour un salaud d'obsédé sexuel, un malade qui ne se contente pas de la harceler, mais qui va loin, il a force à faire des choses à genoux avec son pantalon sur les chevilles. Et pas seulement elle, pas seulement Thérèse, mais toutes les autres filles de l'entreprise. Est-ce que nous allons lyncher Thérèse avec le même entrain que nous étions prêts à lyncher Maurice au début de cette histoire exemplaire pleine de finesse que je viens de vous raconter ? Intéressant quand même, hein. C'est intéressant comment ça fonctionne, la justice, notre sens de la justice. Le nôtre, on n'a pas tellement confiance, on le sait depuis fort longtemps, tant nous sommes enclins à la vengeance, à chaud, le talion immédiat. Et contre ça, qui était si destructeur, parce qu'on avait tendance à se détruire massivement, on a inventé la justice, on a inventé l'enquête, on a inventé l'instruction, on a inventé des lois. On a inventé des lois pleines d'alinéas. Vous avez vu hier ce qu'on fait des alinéas qu'on paume en chemin. On a inventé tout ça. Sauf que les juges sont des êtres humains. Les magistrats sont des êtres humains. Eux aussi en proie à des préjugés. C'est embêtant quand on est juge et qu'on a trop de préjugés. Eh bien, c'est ce qui se passe, hélas, si souvent. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Jean-Claude, l'entrepreneur entreprenant, notre sujet du jour. C'est jusqu'à 16h, c'est la basse
égition. Une rumeur, c'est une information non vérifiée qui circule. Non vérifiée, ça ne veut pas dire faux. La base de toute rumeur, c'est un phénomène inexpliqué. Les rumeurs partent d'un événement un peu traumatisant et qu'il faut expliquer. Bon, il faut trouver quelque chose. Parce que la douleur est trop forte.
Il faut arrêter de prendre les gens qui croient les rumeurs pour des imbéciles, etc. La rumeur, elle naît de l'incrédibilité. Mais les choses n'arrivent pas par hasard. Cette rumeur, elle a un fondement. La rumeur, c'est ce que vous avez envie de croire. Et c'est ce que vous pouvez croire. Il y a toujours cette espèce de sélection qui fait que les gens reçoivent le message qui les concerne. Le travail nécessaire à toute rumeur, c'est de dire, si les gens le croient, qu'est-ce que ça indique ? C'est cette idée que il n'y a pas de rumeur incroyable. Il n'y a que des gens qui, à un moment donné, veulent croire quelque chose parce que ça dit un message particulier.
La rumeur, c'est le cachet. C'est qu'est-ce qu'on cache ? Je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'on ne devrait pas savoir ? Je vais vous le dire.
C'est pour ça que quand on attaque la rumeur, on a l'impression qu'on arrive avec les chiffres, les faits, etc. Mais la rumeur, elle dit autre chose. Il y a toujours un double discours dans la rumeur. Il y a toujours un double discours dans la rumeur. Il y a toujours un double discours dans la rumeur.
Mais ça, c'est l'article du Parisien.
C'est l'article du Parisien. Alors, René Sous-Bois, le patron avait harcelé une quinzaine de salariés. Alors, c'est pas vrai, hein, parce qu'il n'y en a pas 15. Il n'y en a que 4 ou 5 qui ont foutu le bordel. Tous les matins, je me sentais mal. Et quand il me tripotait, j'avais très peur. Dalila, 27 ans, une jolie petite femme brune. Espère que son patron sera condamné pour le harcèlement et les agressions sexuelles qu'elle a subies pendant 4 mois. Jean-Claude, 61 ans, a été mis en examen hier par un juge d'instruction de Bobigny pour avoir infligé les mêmes traitements pendant plusieurs années à une quinzaine de ses salariés. Cheveux gris et veste en velours, l'homme nie lors de sa garde à vue. Tout débordement avec ses collaboratrices. Il dirige une imprimerie installée dans la ZAC de Nanteuil à Rosny-sous-Bois. Son épouse, interrogée par les enquêteurs, confirme que le père de ses enfants n'a pas le comportement d'un homme qui trompe sa moitié. Pourtant, au début de la semaine dernière, Dalila se rend au commissariat et raconte que Jean-Claude lui a fait subir un enfer. Il m'a passé les mains dans le corsage et sous ma jupe et a parfois même exigé que je lui fasse des choses en descendant son pantalon. Les policiers convoquent les 35 salariés de la société. Complètement faux. J'aurais bien voulu. Hein? Et une bonne partie des femmes, alors ça veut dire quoi une bonne partie? Confirme que leur patron avait tendance à recruter des employés minces et belles. Il embrassait près de la bouche et nous mettait la main aux fesses, soutient l'une d'elles. D'autres salariés plus prudes parlent de familiarité. C'est vrai, j'ai jamais nié. Et d'un patron qui se prenait d'affection pour ses employés. Le parquet de Bamigny a requis un mandat de dépôt contre l'entrepreneur trop entreprenant. C'est qu'il a d'esprit, le mec, hein? Le Julien Constant, là. Le parquet a requis un mandat de dépôt contre l'entrepreneur trop entreprenant. Son avocat propose une remise en liberté avec un contrôle judiciaire comprenant l'interdiction de fréquenter sa société. Ben, c'était ça ou la tôle, quoi. Hein, la préventive.
Il y a des gens qui vous ont reconnu à cause de cet article ou...
Alors, vous pensez? Ah oui, les clients qui ont appelé à la boîte et après qu'on fait les billets à les mains pour avoir le téléphone de personnel. Donc ils m'ont appelé.
Pour vous dire?
Ben, pour compatir, pour la plupart, parce que les clients finalement, j'ai beaucoup à faire à eux, et au téléphone, et par leur présence, on fait des bons à tirer dans l'imprimerie. Au local, ça peut durer des heures. Jusqu'à temps qu'on obtienne ce qu'ils veulent, donc on est avec eux, on discute. Ils nous voient agir auprès du personnel et tout, ils voient très bien comment ça se passe. Donc quand ils ont appris ça, toc. Mais il y a des clients aussi qui ne viennent plus travailler parce que leur patron, ils ont été voir leur patron en disant « Regardez, Yadia, notre imprimeur, vous vous rendez compte, on peut pas, pour le nom de notre société, on peut pas travailler avec des gens comme ça. Donc je l'ai perdu. »
Et vous, toute cette affaire, vous l'avez appris comment déjà?
Un soir, il est rentré en me disant « Demain, je pars plus tôt. Je suis convoqué au commissariat de Rosny à 9h. » Alors, je lui demande pourquoi. Il me dit « Je sais pas, pour affaire me concernant. » Bon, ça reste très vague. Il part le matin, il part au commissariat. Et vers 10h30, 11h, je reçois un coup de téléphone d'un lieutenant de police m'indiquant que mon mari était placé en garde à vue. Alors, je lui demande pour quel motif. Il me dit, écoutez, vous allez passer au commissariat parce qu'on veut vous entendre. Passez au commissariat cet après-midi et je vous expliquerai. Je me présente au commissariat, une femme arrive, elle se présente comme gardien de la paix et elle m'interroge. Alors j'étais surprise de ne pas être interrogée par le lieutenant. Non, elle me dit, vu le type d'affaires, c'est peut-être mieux que vous soyez interrogée par une femme. Bon, je commençais à me poser des questions. Et je lui demande pour quelle raison mon mari était placé en garde à vue. Alors elle me dit, écoutez, ça va être très difficile pour vous, mais enfin, je dois vous avouer que vous êtes cocu. Alors déjà, ça surprend quand même un peu. Je lui dis, comment ça? Elle me dit, oui, votre mari est placé en garde à vue pour agression sexuelle. Je lui dis, ah bon? Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors elle m'explique que c'était vis-à-vis de plusieurs de ses salariés. Il y en avait une qui avait porté plainte, mais enfin, il avait tripoté... plusieurs salariés depuis 2001 jusqu'à ce jour de novembre 2003. Donc, il est placé en garde à vue pour agression sexuelle. Alors, je lui demande ce qu'il risque. Elle me dit 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Et après, elle me dit, vous allez me parler de votre vie sexuelle. Alors, je lui dis, écoutez, ma vie sexuelle ne regarde que moi. Je vois pas en quoi ça peut regarder la police. Et elle me dit, si vous me parlez pas de votre vie sexuelle, ça va pas arranger les affaires de votre mari. Alors moi, comme une imbécile, n'ayant jamais eu affaire à la police pour quoi que ce soit, je me dis, après tout, pourquoi pas? Alors elle commence à me poser des questions, mais c'était vraiment une gardienne de la paix, mais avec des propos odieux, des propos orduriers et tout, que je n'oserais même pas vous répéter, parce que c'est vraiment horrible.
Est-ce que vous le sucez? Est-ce que vous le laissez sodomiser?
Oui, bon. Mais pas avec ces propos-là. Hein. C'était vraiment des propos crus. Je sais pas, tu te demandes si t'es tombé chez les dingues ou si t'es dans un commissariat. Et quand il est passé en comparution immédiate, c'est là que j'ai vu la prétendue victime qui m'a regardé droit dans les yeux en me faisant ce geste, un doigt, avec un grand sourire, en ayant l'air de me dire « Ma fille, maintenant, démerde-toi ». Et moi, je suis... Donc, mon mari est arrivé au tribunal monoté, sans lunettes, pas rasé, pas lavé. Enfin, vraiment la tête qu'il fallait pour être le parfait agresseur sexuel. Hein. Et puis, le juge a décidé qu'une instruction s'imposait. Donc, il a été renvoyé devant un juge d'instruction. Et nous, on attendait toujours dans le tribunal pour savoir ce qui allait se passer, s'il allait être mis en liberté ou pas, on ne savait pas. Et finalement, vers 21h, il est ressorti du tribunal en étant mis en examen et en ayant interdiction de se présenter dans sa société, de voir les victimes.
D'un seul coup, la famille, tout le monde vous découvre comme ça. Ah ben je savais pas que j'étais marié avec un bandit. Combien de femmes ont quitté leur mari suite à ce genre de truc? Jean-Claude, je l'ai vu, il a soulevé les jupes d'Armel, il y avait la main dans la culotte et la main sur le sexe. L'autre, ah oui, oui, vous avez vu ça aussi, oui. L'intéressé en face du juge, vous confirmez, Madame X? Ah ouais, non, je me rappelle pas, mais j'ai dû zapper dans ma tête. Et mon compte était réglé, quoi. Je n'ai pas eu de justice. Je n'ai pas été jugé, au sens propre du mot. Pas le droit d'exercer, vous imaginez bien que les gens m'appelaient chez moi. J'ai ça, j'ai un problème, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? C'était moi le boss, nom de Dieu. Alors, c'est assez curieux, parce que dès le premier mois où j'ai été écarté de la société, on a vu les gens qui avaient témoigné contre moi, démissionner, et se retrouver à 5 ou 6 personnes dans un petit groupe à côté, une boîte qu'ils ont repris. Et ma clientèle foutait le camp là-bas. Et le juge d'instruction m'a autorisé à revenir au bout de 9 mois. C'est-à-dire le 31 juillet 2004. Et moi je suis revenu pour déposer les bilans. Ah oui, plus de bilans. Je me suis bagarré. Alors j'ai travaillé donc 3 ans après. Sans salaire, sans rien. Simplement pour sauver les emplois. Et là on a découvert toutes les malfaçons. Et là on a découvert les magouilles. Et j'ai fait expertiser les comptes, réexpertiser les comptes 3 fois... Et finalement, un groupe de comptables spécialisés a parfaitement trouvé que la comptable avait falsifié les écritures et avait versé des commissions indues à 4 commerciaux qui ont témoigné contre moi, sauf un. 30 000 euros. Parce que je ne comprenais pas pourquoi ces gars que je connaissais bien, ces commerciaux, avaient abondé dans le sens des victimes. Et puis là, j'ai compris quand c'était évident, quoi. C'était déjà une certitude. Il y avait eu quelque chose, mais là, c'était la preuve. Tout le monde s'amusait bien. Merci, monsieur le juge d'instruction. Pourquoi m'empêcher de gérer ma société, qui m'empêche de gérer les nanas qui ont porté plainte contre moi? Mais de toute façon, ils savaient, ils sont toutes partis après. Toutes parties dans les semaines qui venaient. C'était dans une autre boîte en train de nous faire une concurrence déloyale, de là-bas à ici. J'ai même fait faire un constat d'huissier pour qu'il constate. Et à ce moment-là, pendant cette même période, ma comptable donnait de l'argent aux gens qui avaient témoigné contre moi. Même les jugements des prud'hommes ont reconnu une concurrence déloyale, des rassemblements de personnel douteux. Donc j'ai crié au complot. Juste l'instruction ne voulait pas entendre parler du complot. Donc, il me considérait comme un malade qui tripotait.
Donc en première instance, vous avez été condamné à payer des dommages et intérêts?
Ah oui, à toutes. En tout, ça m'a fait 20 000 euros, j'ai pris 1 an de prison. Le procureur a demandé 10 mois, la présidente m'a collé 1 an avec sursis. Heureusement, que j'ai fait appel, je me suis retrouvé devant la cour d'appel, mais cette fois-ci, les pièces avaient été transmises. Et là, j'ai été surpris, le président, qui était là avec l'avocat général, m'ont dit « Asseyez-vous, monsieur. Levez-vous, monsieur. » C'était... On commençait à m'appeler comme un être humain, figurez-vous. Alors, vous savez, j'ai bien suivi de près l'affaire Doutreau, vous imaginez. Moi, je me compare surtout pas à ça, à cette affaire. Mais en plus petit, c'est ça. Moi, j'ai tout perdu aussi, hein. J'ai perdu ma société. Je partais à la retraite avec 3 millions d'euros en vendant mes boîtes. Je suis parti avec une cerise, 2 dépôts de bilan, et surtout, au bout de 3 ans, une continuation accordé par les tribunaux, ça veut dire que j'ai redressé mes sociétés. Et dès l'instant où je les ai redressées, je les ai données à quelqu'un à qui ça intéressait, évidemment, de poursuivre. Et voilà, c'est bon, j'ai bossé 51 ans, 204 trimestres de sécu. Je me retrouve chez moi, j'ai que ma retraite. Je suis un PDG, je m'en fous, notez bien. Hein. Je suis fils d'éboueur, Mais je dis simplement qu'avec, après avoir fait tout ce que j'ai fait, peut-être que ma famille aura mérité d'en croquer un petit peu de mon travail.
Dans la gueule, oui, dans la gueule. Dans la gueule, oh, dans la gueule. Dans la gueule, oui, dans la gueule. Dans la gueule, oh, dans la gueule. Le blanc nous noircira tous, ça n'a un.
Au pilot,
les négras,
les loris,
les frigos,
les rastos,
les bicas,
les cabis,
en fracas,
et si c'est
pas le cas, prends ma main, point.
Dans la gueule, oui, dans la gueule. Dans la gueule, oh, dans la gueule. Dans la gueule, oui, dans la gueule. Dans la gueule, oh, dans la gueule. Oh, dans la gueule. Je suis tout mis dans la gueule. Dans la gueule, oui, dans la gueule. On s'est tout pris dans la gueule.
Voilà une petite chanson pour souhaiter un prompt rétablissement à Silvio Berlusconi. Alors pour ceux qui arrivent en retard, je résume l'histoire en quelques mots, parce qu'évidemment Jean-Claude il est assez traumatisé par toute cette histoire. Vous l'avez compris, c'est une histoire très très dure pour cette petite famille. Je résume donc: Jean-Claude Diard, ce patron, ex-patron, 67 ans aujourd'hui, 61 ans au moment des faits, patron d'une imprimerie, 50 salariés. Il a commencé à bosser dans l'imprimerie à 14 ans. Il l'a dit et rappelé, son père était éboueur. Il était, quand il était salarié dans l'imprimerie, syndiqué CGT. Puis en 2000, il devient patron. En 2003, il a un conflit avec une de ses salariés, un différent, et elle est licenciée. Et elle dit en partant: je me vengerai. Elle était aide comptable et elle est cette petite jolie brunette de 27 ans, décrite dans le quotidien Le Parisien. Et en effet, elle se venge, elle porte plainte pour harcèlement sexuel. Jean-Claude vient de raconter l'histoire, il est convoqué au commissariat, il nous a dit comment il a été placé en garde à vue. Et pendant ce temps, les ex-salariés de son entreprise, avec qui il avait eu des conflits, viennent déposer au commissariat. Et ils sont une dizaine à venir témoigner. Oui, 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 il me tripotait, il me mettait la main là et là, il se promenait le sexe à l'air, etc., etc. Et en fait, on découvrira, mais plus tard, que la victime, la jolie brunette, avait fourni une liste à la police qui avait convoqué ses témoins. La police ne convoquera aucun autre témoin que ceux-là. Donc, notre Jean-Claude passe en comparution immédiate au tribunal de Bobigny. Et là, il tombe sur une présidente qui, malgré les témoignages, renvoie l'affaire devant un juge d'instruction. Sinon, il risquait 5 ans, plus 2 ans, parce qu'il est une personne ayant autorité, et 70 000 euros d'amende avec mandat de dépôt, c'est-à-dire détention immédiate. Donc, la présidente la renvoie devant le juge d'instruction. Il voit ce juge d'instruction qui le met en examen, qui lui interdit de diriger sa société. Il rentre chez lui. Sa société, évidemment, rapidement se casse la figure. Il y a l'article du Parisien qu'il a évoqué qui est expédié à ses clients, délicatement. Et La vérité, c'est que la jolie brunette en question était devenue, c'est vraiment un sujet de roman formidable, était devenue la maîtresse de son concurrent. Et c'est ensemble, la maîtresse et le concurrent, que ce coup tordu avait été imaginé. Dalila, elle s'appelle, a porté plainte, puis trois autres qui se portent partie civile, et quatre au total. Au bout de 5 ans d'instruction, en 2008, Jean-Claude est condamné à 1 an avec sursis et 20 000 euros d'amende. 9 mois après la condamnation, il est autorisé à revenir dans son entreprise, mais la boîte bat de l'aile. Des experts comptables expertisent les comptes, vous me suivez toujours, et ils découvrent qu'il y a des détournements dans la comptabilité. Environ 30 000 euros de comptabilité détournée. Et on va s'apercevoir que c'est la comptable, un petit peu indélicate, qui avait détourné ses fonds pour graisser la patte des témoins qui sont venus témoigner contre Jean-Claude. Donc à son tour, il porte plainte, il fait appel, et 1 an plus tard, il est relaxé au bénéfice du doute, et les victimes plaignantes sont déboutées. C'est quand même une histoire assez singulière, et on a voulu avoir les explications de l'avocate de Jean-Claude, Françoise Margot.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire au départ ?
Alors, j'ai d'abord demandé à avoir la copie intégrale du dossier de Jean-Claude Diard, et je dois vous dire qu'à la lecture des premiers procès-verbaux de police, j'ai été tout à fait convaincue de sa culpabilité, et qu'il a fallu par la suite que mon étude aille plus loin, plus en profondeur, avec ce qui s'était passé devant le juge d'instruction, les contradictions que j'avais trouvées dans le dossier, une connaissance également de Jean-Claude Diard plus importante, pour cette fois être parfaitement convaincue de son innocence. Mais c'est vrai que la lecture des premiers procès-verbaux était tout à fait affligeante et allait uniquement dans le sens de la culpabilité de Jean-Claude Diard. Il y a deux sortes de délits qui sont actuellement en ligne de mire de la justice. Vous avez les violences conjugales et vous avez effectivement tous les délits ou crimes d'ordre sexuel. Je crois savoir que mission a été donnée au service de police d'apporter une attention particulière à ce style de délit, ou en tout cas aux dénonciations de ces délits. Naturellement, dans les gens poursuivis, il y a des personnes qui ont vraiment commis les délits en question, et puis il y en a d'autres qui sont prises dans la nasse et qui ne sont pas coupables, et qui, lorsqu'elles revendiquent leur innocence, ont tendance à ne pas être prises au sérieux et à ne pas être crues du tout. La France a été un pays dans lequel les délits d'ordre sexuel ont été niés pendant des années. On est un pays catholique et tout ce qui avait attrait au sexe était caché et on n'en parlait pas et on a toléré beaucoup de choses qui n'auraient jamais dû exister. Naturellement, il y a eu un revirement des choses et nous sommes allés dans le sens inverse, avec une croyance absolue dans la parole des victimes, du style « les faibles ne peuvent pas mentir ». Et par conséquent, dès qu'un enfant ou une jeune femme se plaint de délits d'ordre sexuel, la tendance évidente est de croire la plainte de cette personne. Alors donc, il reste à la personne accusée de tels agissements d'essayer d'établir la preuve de son innocence, alors que naturellement, c'est théoriquement la preuve de la culpabilité qui doit être rapportée, et non pas la preuve de l'innocence.
Mais pourtant, après l'affaire Doutreau, on devait faire plus attention et à la parole des enfants, mais en général à la parole des victimes.
On considère que l'affaire Doutreau était exceptionnel. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Outreau n'est en rien une affaire exceptionnelle. Au fond, c'est exceptionnel parce qu'il y a eu beaucoup de personnes incarcérées et longtemps incarcérées. Ça, en soi, c'est exceptionnel. Par contre, des gens poursuivis pour des agressions sexuelles ou des attouchements sexuels qu'ils n'ont pas commis, il y en a beaucoup en France actuellement.
Ils ont réussi à me coller ça sur le dos par le profil du personnage que je suis, c'est-à-dire assez familier. C'était l'occasion rêvée, quoi. On m'a dit que je parlais d'une manière ordurière et très crue. Bon, je peux parler simplement aussi. Quand je raconte une histoire de Coluche, bon, le hasard avait voulu, je sais que dedans je l'avais raconté. Ouais, les femmes, toutes des putes, sauf ma mère. Vous voyez, des trucs comme ça. Ça m'était ressorti, figurez-vous, chez les flics. Mais j'ai jamais dit autrement pendant tous mes PV, mes auditions à la police, les PV d'audition, excusez-moi, et ensuite devant le juge d'instruction. Oui, je mets la main sur l'épaule des gens. Oui, il m'arrive de prendre un bras. Oui, ça m'arrive. Bon, je suis pas jeune, hein, mais c'était comme ça. Puis dans l'après-midi, pour tout vous dire, on se tutoie tous. Hein, et puis on s'appelle tout le monde par les prénoms. C'est un milieu comme ça. C'est un milieu de camaraderie. Hein, c'est... Tout le monde était syndiqué dans l'après-midi, tout le monde se tutoyait. Oh oui, Jean-Claude, il met la main sur l'épaule. Ben oui, je mets la main sur l'épaule. Mais alors le flic, lui, pense que c'est pour tripoter. Et moi, c'est comme ça. Parce que je t'aime bien, point. C'est pas parce que je t'aime bien que je piote avec toi ou je veux pioter avec toi. C'est ça qu'il faut faire comme différence. Mais bon, vous voyez, ils tiennent vraiment compte de rien dans les instructions. J'arrive pas à penser que c'est grave. Vous voyez, c'est pas grave, de mettre la main sur l'épaule à quelqu'un et tout.
T'étais pas accusé de ça aussi.
Bah quoi ? Je suis accusé de quoi ?
Bah d'agression sexuelle, c'est différent quand même.
Oui, mais sans.
C'est l'accusation indigne, dont on peut pas se défaire parce qu'on n'a pas les moyens de justifier qu'on l'a fait ou qu'on ne l'a pas fait.
Voilà, puis t'es condamné. Et c'est tout. Tu verses de l'argent aux victimes, parce que dans le droit français, il n'y a que ça qui compte. Verser de l'argent aux victimes, indemniser les victimes. Donc cette plainte, c'était fait pour ça. Je peux vous montrer, effectivement, dans le dossier, la lettre où elle demande, effectivement, chacune 2 ans de salaire, qui correspond à 150 000 euros. Et elle retire leur plainte. Qu'est-ce que je vais aller payer quelque chose que je n'ai pas fait ? Non, mais attendez, on rigole. De quoi ? Pour qui je serais passé devant mes enfants, mes copains, ma femme ? Je ne comprends pas qu'une femme, ou des femmes bafouées, touchées, humiliées, par un homme comme ça, qui est la teneur de la plainte, de leur plainte, puissent demander de l'argent à leur agresseur, et puis elles oublient tout. Il n'y a plus de réparation devant la société. On touche le pognon, on enlève nos plaintes. Et puis si tu veux pas, c'est pas grave, on touche le pognon après, quoi. Parce que c'est ça. Première instance, on a lu pendant 1h30, 2h, le rapport de police. Alors évidemment, j'étais le grand méchant loup. Parce que quand on lit mon dossier, évidemment, au début, je suis 100 fois coupable. Ça, je peux comprendre. Seulement, voilà, si on se donne la peine de bien vouloir l'étudier.
Quand on est accusé de violence sur un enfant ou sur son compagnon ou sur sa compagne, quand on est accusé d'avoir fait disparaître quelqu'un ou tuer quelqu'un, quand on est accusé d'agression sexuelle et qu'on a le sentiment et la certitude en soi de ne pas les avoir commis, on est atteint dans son honneur. Et l'honneur de chaque individu est évidemment essentiel, mais c'est une notion qui, me semble-t-il, est extrêmement mal perçue par la justice de notre pays actuellement.
Le crime impuni, selon les Grecs, infectait la cité. Mais l'innocence condamnée et le crime trop puni à la longue ne la souillaient pas moins. Ainsi parlait Albert Camus dans Réflexions sur la guillotine. On va célébrer Camus l'année prochaine. Et ceux qui aiment bien mettre des citations dans leurs discours comme des boules de Noël dans le sapin feraient bien de prendre celle-ci en compte. Le crime impuni, selon les Grecs, infectait la cité, mais l'innocence condamnée et le crime trop puni à la longue ne la souille pas moins. Qu'est-ce que cette histoire malheureuse de Jean-Claude Diard dit sur notre société, sur notre aujourd'hui, sur ce que nous croyons, sur ce qui nous passionne, sur nos emportements, sur notre opinion pour tout dire. Voilà l'opinion et l'analyse de Xavier Lamère, qui est magistrat, criminologue, et qui est également enseignant-chercheur à l'École nationale de la magistrature. Pour lui, il faut... Le traitement pénal des violences sexuelles est démesuré. Xavier Lamère.
Depuis environ un quart de siècle, la législation n'a cessé de se renforcer dans le sens de la répression pénale de toutes les infractions sexuelles. Je dirais qu'il y a eu plusieurs, évidemment, facteurs hein, qui ont permis cette espèce de cristallisation de la répression des infractions sexuelles, notamment en France, des facteurs donc, d'évolution sociologique, d'évolution des mentalités. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une hypersensibilité de nos contemporains à ce type d'infraction, de telle sorte que on a pu voir que du point de vue de la gravité même des peines prononcées, certains viols avec des circonstances aggravantes étaient bien plus lourdement condamnés que le meurtre, par exemple. Et là, je pense que ça traduit une mutation socio-anthropologique majeure, puisque dès lors, ce n'est plus le tu ne tueras point de la Bible qui prévaut, mais plutôt le noli me tangere, ne me touche pas, à savoir une modification véritablement profonde des mentalités qui conduisent à ne plus supporter aucune atteinte pouvant toucher le corps à tous les sens du terme. Donc des mutations sociologiques, socio-anthropologiques, à mes yeux majeurs, qui ont rencontré des mouvements de différentes natures, à la fois des mouvements, je dirais, progressistes, de défense effective des droits des femmes et des enfants, mais aussi des mouvements de mentalité, certainement beaucoup moins progressistes, de volonté de retour à l'ordre, à un ordre moral, à un ordre sexuel, je dirais, traditionnel, de telle sorte que certains auteurs, par exemple, ont pu aussi parler de police de la sexualité, contredisant une trentaine d'années après ce qui avait pu être les slogans de ce qu'on a appelé la libération sexuelle, entre guillemets, de la fin des années 60, début des années 70. Il y a véritablement un renversement à la fois de mentalité, de valeur, et enfin, je pense que ces différents courants d'évolution des mentalités ont pu rencontrer, sur le plan politique, les idées que l'on nomme de populisme pénal, qui sont favorables à une répression véritablement accru de l'ensemble des infractions. Aujourd'hui, je me demande si le régime pénal spécial, régime d'exception, mis en place pour lutter contre les auteurs d'infractions sexuelles, n'a pas été d'une certaine manière le précurseur d'un régime véritablement bien plus répressif sur le plan pénal, mais appliqué à l'ensemble, à un ensemble en tout cas bien plus large d'infractions que les seules infractions sexuelles.
Non. Un sale gosse nommé Stéphane est en privé de goûter, a chipé une banane et sa maman l'a fouetté. Aussitôt une voisine est sortie de sa cuisine, elle est descendue vivement chez la crémière en disant et papapi et papapa et papapi et papapa et papapi et papapa et papapi et papapa. C'est la rumeur, c'est la rumeur publique qui sème la panique. On ne saura jamais qui l'a dit car c'est la rumeur publique qui sème la panique. Tout le monde l'a dit.
La grammaire dit aux pratiques, croyez-vous c'est effarant? Une femme neurasthénique assassine son enfant. Les clients que ça bouleverse disent au café du commerce, moi j'ai vu le sang sur le couteau, moi j'ai compté les morceaux.
Et papapi, et papapa, et papapi, et papapa, et papapi, et papapa. C'est la rumeur publique qui sème la panique. Tout le monde l'a dit.
Ça durait 6 ans, mais ça. 6 ans de merde à mon domicile, dans notre tête, à toute la famille. Ça aurait pu être vrai, c'est vrai. Mais là, c'est faux. Mais au moins qu'ils prennent les moyens de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, qu'on instruise. C'est, je crois que c'est ça le pire. C'est de savoir que vous n'avez rien fait. Et qu'en face, il y a des gens de là, des magistrats, tout ça, qui sont persuadés que vous l'avez fait, quoi. Mais persuadés de quoi? Ils ont pas regardé le dossier, ils le connaissent pas. Quand vous arrivez, ils peuvent vous parler de la code 133D pour expliquer quelque chose. On vous regarde comme une bête. On est obligé de se référer au dossier, ils le connaissent pas. Et pourtant, c'est eux qui l'instruisent, soi-disant. Il y a des juges d'instruction, c'est les premiers bourreaux de la société, hein. Donc, on m'a relaxé. Mais je vivais pas, et quand on me l'a dit, pour tout vous dire, on s'est bien pleuré. Il y avait un gosse, il y avait ma femme, l'avocate. On leur descendait les marches du palais. Là, j'ai compris, ça avait fait le tour du tuyau, le temps de descendre les étages. Et là, on s'est bien pleuré. Et puis, on s'est embrassé au tribunal. On était contents. Et puis, quelques heures après, on est retombé dans cette espèce d'habitude léthargique du coupable permanent, toujours... dans l'attente d'être condamné de quelque chose, d'avoir mal fait. C'est une sensation un peu... Ça broie. Vous êtes dans votre lit, au moment de vous endormir, vous êtes un peu fatigué. Bon, vous fermez les yeux, et là, vous avez toute l'affaire qui passe. Ah bah ça, j'ai oublié de le dire. Ah bah ça, il faut que je le dise. Ça sert à rien. Ça sert à rien, on vous écoute pas. On ne vous écoute jamais. Mais là, même innocenté, hein. Quand vous allez dans les administrations pour demander une désinscription au Figet, quand vous demandez votre pognon, votre caution, tout, mais attendez, les gens vous regardent, ils veulent les jugements et tout, vous êtes toujours coupable, quoi. Alors, c'est pareil, quand j'ai été condamné la première fois, j'ai été condamné, et il y a la loi oblige à une inscription, ce qu'on appelle le Figet. Le Figet, c'est un nom, c'est le casier judiciaire, mais c'est un deuxième casier judiciaire où sont regroupés tous les condamnés, les délinquants sexuels qui ont été jugés. Alors que vous fassiez appel ou pas, du moment que vous êtes passé devant une juridiction et que vous êtes condamné, vous êtes inscrit au Figet. Alors vous voyez un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on fait du STIC? Le STIC, c'est le fichier des infractions constatées de la police. Je suis dedans. Le FINAEG, je suis dedans. Mais on peut pas se désinscrire, nulle part. C'est-à-dire qu'on m'a fait l'ADN, et on m'a mis mon ADN chez les délinquants sexuels. Donc je suis inscrit là-dedans aussi, quoi. J'ai ma fiche anthropométrique et tout, quoi. Alors, je sais que la Cour européenne, en matière judiciaire, qu'on a la France plusieurs fois, parce qu'on peut pas, on ne peut pas se désinscrire. Voilà. Récit d'une erreur judiciaire un peu cradoc, qui a duré un peu trop longtemps.
Merci à tous. C'était un reportage de Charlotte Perry. Merci à Jean-Claude Diard, qu'on vient d'entendre, à sa épouse Martine. Merci aussi à Françoise Margot et Xavier Lamère. À lire un livre de Denis Salas, publié en janvier 2008 par Hachette, « La volonté de punir, essai sur le populisme pénal ». Toutes les infos sont disponibles sur le site de France Inter, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur labas.org, la-bas.org. La technique aujourd'hui, Loïc Frapsos et Gaël Braou-Ézec. Coyenne Guyenne et Raphaël Moutère ont réalisé cette émission. Il n'y a pas de H, c'est pas facile à prononcer, Braou-Ézec. Coyenne Guyenne et Raphaël Moutère sont à la réalisation aujourd'hui, et Agnès Lebot nous assiste, et Catherine Pinto, quant à elle, attend vos messages au répondeur de la basse si j'y suis, qui est le 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. Et puis je vous le rappelle, vendredi, nous partons en Inde, nous partons pour le Kerala, quelques jours, quelques pas dans le Kerala, et puis à partir du 11 janvier, nous partirons dans le Chhattisgarh à la rencontre de la guérilla. Naxala est une, ce que le Premier ministre indien considère comme le plus gros problème d'insécurité en Inde actuellement. Voilà, il est 15h59 minutes et 35 secondes sur France Inter, le moment attendu, celui de la pub.
Quelle soirée, hein. Ouais. Elle sait recevoir, hein, chérie. Ouais. Ses coussins dernier cri, ouais. Ses brocolis au miel. T'as aimé, toi? Ouais. Sa petite jupe noire. Ouais. Tout est tellement in chez Jacqueline.
Ouais, t'as vu sa vaisselle?
Ah, c'est sûr, sa vaisselle, ça calme, hein, forcément.
Voilà.
Les heures de la table. C'est comme la mode, c'est bien quand ça change.
À demain, 15h pour la basse, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Marina Kabitaine. Salut.
Et bye bye.
Vague de froid sur la France et pic d'électricité dans les foyers. Ce soir, à 19h, le réseau de transport d'électricité prévoit une importation de 7300 MW, l'équivalent de la production de 7 réacteurs nucléaires. Et l'un des niveaux les plus élevés jamais enregistrés, des coupures de courant sont à craindre. Et puis avec le froid, la neige arrive. 31 départements sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas par Météo France, la grande moitié nord du pays. La hausse du SMIC au 1er janvier a été entériné en Conseil des ministres ce matin. Ce sera 0,5%, c'est-à-dire une augmentation sans coup de pouce. Le taux horaire passe de 8,82 à 8,86 euros. Le Conseil des ministres a justifié sa décision par le contexte économique. Comme en Grande-Bretagne, la France veut taxer les bonus bancaires de l'année prochaine. La ministre de l'économie parle aujourd'hui de 50% qui seront prélevés sur toutes les primes de plus de 27 500 euros. La grève continue sur le RER A en région parisienne, ça fait une semaine. Aujourd'hui encore, il n'y a aucun train sauf pendant les heures de pointe. Une assemblée générale était prévue par les syndicats de la RATP aujourd'hui. Ils réclament une prime. La direction ne leur proposerait que la moitié du montant qu'ils demandent. Après les associations, après l'opposition et même certains membres de la majorité, c'est l'Afghanistan lui-même qui se positionne contre l'expulsion de 9 Afghans. Ils sont arrivés à Kaboul ce matin depuis Paris. Le devenir de ces sans-papiers est très flou puisque l'ambassade d'Afghanistan à Paris annonce qu'ils n'ont pas le laissez-passer nécessaire à leur retour dans le pays. Kaboul ne l'accorde pas si le retour n'est pas voulu par les ressortissants. Le ministre de l'Immigration, Éric Besson, lui, assure que les procédures ont été respectées. L'Afghanistan est en guerre depuis 2001. Hier, il y a eu au moins 14 morts dans diverses attaques à travers le pays. Pas question d'arrêter le débat sur l'identité nationale pour le gouvernement. C'est son porte-parole, Luc Chatel, qui l'a affirmé il y a quelques heures. Les appels à arrêter ce débat se multiplient avec la dernière polémique en date. Et c'est Nadine Morano qui l'a déclenché. La secrétaire d'État à la famille a tenu des propos stéréotypants les jeunes musulmans. Ils doivent trouver un emploi, respecter des codes vestimentaires et de langage. Tollé des associations, elle, assume ses propos et dénonce la gauche caviar qui ne connaît pas les quartiers. Rebondissement à Copenhague aujourd'hui. La présidente de la conférence sur le climat a démissionné 2 jours avant la fin de la réunion. Les pays pauvres lui reprochent d'avoir favorisé les riches. Et au milieu, le secrétaire général des Nations Unies demande aux deux camps d'arrêter de se montrer du doigt. C'est le premier ministre danois qui reprend la présidence. Du sport avec 7 matchs de football ce soir de la Ligue 1. À 19h, il y a notamment la réception à Montpellier de Bordeaux, champion et leader provisoire. Le Paris Saint-Germain accueille Lens à partir de 21h.
Et pourtant elle tourne, saison 4, Jean-Marc Fou.
Cora malienne, guitare aborigène, pop anglaise, piano italien, rythme libanais, Morna du Cap-Vert. Désignez votre meilleur album étranger de l'année. Votez jusqu'à dimanche soir sur le site Dès pourtant elle tourne sur franceinter.com.
France Inter présente Pat Metheny. The Orchestrion Tour. En concert le 13 février 2010 à l'Olympia. Et en tournée à Coutances, Châlons-en-Champagne, Nantes et Bordeaux. Retrouvez Pat Metheny dans le programme musical de France Inter.
France Inter,
la différence.
16h04 sur France Inter, tout de suite Carrefour de l'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Dans quelques instants, à 16h30, j'aurai le plaisir de recevoir mon excellent confrère Gérard Courchel, qui est rédacteur en chef à France Inter et chargé de l'actualité musicale classique pour la rédaction nationale de Radio France. Et il a coécrit un livre qui s'appelle Opéra ci, Opéra là, ou Comment découvrir l'art lyrique. C'est publié chez Gallimard et France Inter, bien sûr, est partenaire. Donc tout à l'heure, dans 25 minutes à peu près. Pour commencer, oui, on a entendu Copenhague, ça n'est pas simple, ça barde, même il y a des tensions. Alors peut-être pour détendre un peu l'atmosphère, je vous propose un compositeur danois, Hans Christian Lomby. Ça s'écrit L-U-M-B-Y-E-M, enfin bon, voilà, c'est pas toujours la même prononciation que chez nous, les voyelles. Et c'est le rêve après le bal que voici, écrit en 1861. Alors le bal, si c'est cette réunion internationale qui a l'air de chauffer un tout petit peu, peut-être que ça nous permettra, si des accords sont trouvés, de rêver un tout petit peu aussi comme l'auteur dans ce cas-là. Le rêve après le bal de Hans Christian Lumbu, interprété par l'Orchestre Symphonique du Tivoli. Le Tivoli, c'est un grand parc d'attractions à Copenhague. Et l'orchestre était dirigé par Giordano Bellincampi. Voici une autre pièce de Lumbu, Galop du Champagne. Ben voilà, si les accords sont trouvés, on pourra boire du champagne. Il paraît que les prix baissent en ce moment. Certains producteurs en sont fort maris. Et en tout cas, vous pourrez entendre, bien sûr, le fameux bouchon qui saute, le fameux schplop ou pop, comme vous voudrez. Et les fines bulles représentées par le xylophone. Ah oui, une petite astuce d'orchestration.